Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à l'écoute de la première radio de France, Elisabeth Martichoux. Votre invité ce matin, le député de la France Insoumise de la Somme, François Ruffin.
Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. On dit qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses vieux, ses personnes âgées. Appel à la grève dans les maisons de retraite, aujourd'hui les EHPAD. Vous allez, l'été dernier, sauf erreur, rencontrer des personnels dans le Jura, près de Dôle, dans un EHPAD précisément. Qu'est-ce que vous avez frappé?
Moi, je suis très sensible déjà parce que j'ai mon assistante parlementaire qui est elle-même aide-soignante. Donc, elle m'avait, pendant la campagne, bien signalé qu'elle avait deux étages, à s'occuper de deux étages, de 80 personnes, qu'il y avait des gens qui pouvaient sonner pendant très longtemps sans qu'elle vienne les secourir. Et elle avait le sentiment de, maintenant, un terme qui s'est répandu, qui est la maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire de maltraiter les gens, non pas parce qu'elle veut leur faire du mal, mais parce que la situation est tellement catastrophique que, de toute façon, en effet, pour tout ce qui est des besoins, de l'alimentation, des choses de la toilette, donc des choses de base.
C'est un terme que vous reprenez, maltraitance institutionnelle, ça veut dire qu'on institutionnalise, qu'on organise la maltraitance.
Ça ne veut pas dire que ça soit volontaire, mais les réductions de budget et ainsi de suite font que, moi je l'ai observé par ailleurs en psychiatrie, sur lequel j'ai beaucoup bossé, mais même dans les hôpitaux normaux, j'ai eu des anecdotes qui me reviennent à des vacances de Noël, d'une amie qui a mis sa mère dans le service de psychiatrie parce qu'elle était tombée de l'hôpital d'Amiens, et les soignantes l'ont accueilli en lui disant « Écoutez, vous savez, vous êtes 30 pour 3 personnes, donc on ne pourra pas s'occuper correctement de vous. » Voilà l'accueil. Et derrière, cette promesse a été tenue. Elles-mêmes, les infirmières ont pleuré. Elles pleuraient auprès de mon ami. C'est quand même une situation qui est un peu bizarre. Donc, on est là dans l'organisation de la maltraitance, ce qui n'est pas volontaire.
Alors, la ministre, d'ailleurs, sur RTL, a annoncé une enveloppe de 50 millions, en plus des 100 millions qui sont au budget 2018. Elle dit deux choses. Elle dit que l'enveloppe n'a pas encore produit ses effets, qu'effectivement, les moyens mis à disposition cette année, débloqués par le gouvernement, n'ont pas pu vraiment être mis en œuvre. Donc, il faut un peu de patience. Et que, par ailleurs, oui, certains EHPAD sont à bout de force, c'est incontestable, vous l'avez vu, beaucoup le disent encore sur l'antenne ce matin, mais il ne faut pas généraliser. Qu'est-ce que vous lui dites? D'abord, est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce qu'avec 150 millions, on peut améliorer le taux d'encadrement? Parce que c'est ça l'enjeu, non?
Je crois que l'enjeu ne se chiffre pas en millions, mais en milliards. Quand on a affaire à une transformation, c'est une transformation démographique de la société. Et ensuite, il faut se poser des questions sur quels sont les modes d'accueil des personnes âgées. Mais enfin, là, il y a un côté...
Ça veut dire quoi? La maison de retraite, c'est la seule réponse aujourd'hui? C'est peut-être pas la seule, il faut réfléchir
D'abord, c'est pas la seule, puisqu'on sait que pour l'instant, il y a l'objectif de garder les gens un maximum de temps chez eux, via l'aide à domicile, et on pourrait s'interroger sur la manière dont sont traités aussi les soignants qui s'occupent des gens à domicile.
Donc il y a
deux choses, il y a l'urgence, il y a dos au mur là, des soignants et des soignés qui ne vont pas bien et où il faut améliorer leurs conditions, et ensuite il y a une réflexion à avoir sur quels sont les modes d'accueil qu'on veut pour les personnes âgées et pour nous-mêmes demain.
Dans les pays nordiques où le taux d'encadrement est plus important, nous c'est 60%, c'est beaucoup plus, en Suisse c'est 1,2%, donc c'est beaucoup plus. Les gens partent plus tard à la retraite. Autrement dit, les gouvernements privilégient le financement de la dépendance, peut-être au détriment de la retraite. C'est-à-dire qu'on part plus tard à la retraite dans certains pays, mais on est mieux pris en charge quand on est dépendant.
Vous imaginez que ce n'est pas tout à fait l'option que je vais retenir, qui est celle de reculer l'âge de la retraite. Je pense qu'il faut que les gens puissent avoir des années de retraite où ils sont heureux et non pas dépendants, non pas en...
On vit de plus en plus vieux, donc on partira de plus en plus tard à la retraite, non?
C'est bien, vous êtes habile, parce que même sur un sujet comme ça, vous parvenez à nous faire repousser l'âge de la retraite et ainsi de suite. Non, je pense qu'il y a des tas d'autres financements dans notre société. Je le redis, il y a une donnée majeure qui devrait être répétée tous les matins, et vous pouvez vous en charger, c'est le glissement de 10% de la valeur ajoutée du travail vers le capital. Eh bien là, on a une manne de richesse à aller chercher pour financer d'abord les 5 milliards qui ont été enlevés cet automne par M. Darmanin concernant l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Vous récupérez ces 5 milliards-là et vous êtes déjà dans un ordre de grandeur qui n'a rien à voir avec les 150 millions dont vous me parlez au début. Parce que quand le gouvernement fait des efforts pour les gens normaux ou pour les pauvres, ça se chiffre en millions, en dizaines de millions ou en centaines de millions. Mais quand il se fait des efforts pour les riches, ça se chiffre en milliards
donc,
ou en dizaines de milliards.
Il existe et vous dites qu'il est là et que c'est donc un problème de transfert, c'est un problème d'arbitrage et c'est pas un problème de moyens en tant que tel. Je voudrais qu'on parle du burn-out. Il y a beaucoup de burn-out dans les maisons de retraite. Vous défendez un projet de loi pour que ce soit reconnu comme maladie professionnelle. Qu'est-ce que ça changerait ?
Ça changerait deux choses. D'abord, ça changerait pour les gens qui sont malades eux-mêmes à deux niveaux. À un niveau psychologique, c'est pas de ma faute. Mais c'est bien le travail qui a produit ça sur moi.
Donc, on est sûr de ça ? On est sûr que le burn-out, c'est toujours lié à des causes professionnelles ?
Ah ben non, c'est pas toujours lié, mais comme la lombalgie est dans le tableau des maladies professionnelles, et la lombalgie, elle peut être due au fait que vous soulevez des charges trop lourdes, ou elle peut être due au fait que vous jouiez au tennis le dimanche. Donc voilà, eh bien il en est de même pour le burn-out. En général, le burn-out n'est pas une maladie, attention. Hein. Mais par contre, le burn-out engendre des troubles psychiques, qui sont connus, c'est le stress post-traumatique, c'est la dépression lourde, c'est l'anxiété généralisée. Donc voilà, ce sont ces maladies-là, ces troubles psychiques-là, qui peuvent être reconnus comme maladies professionnelles. Et là, on a, par exemple, le témoignage du professeur Patrick Ligeron, qui a rendu un rapport pour l'Académie nationale de médecine, qui, lui, est très ferme. D'abord, qui estime qu'aujourd'hui, les chiffres de reconnaissance sont complètement dérisoires. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un paradoxe.
Qu'est-ce que ça aurait comme effet sur l'employeur ?
Et notre effet, et en effet, c'est sur l'employeur. C'est-à-dire que...
C'est lui qui prendra en charge, ce ne serait pas...
Comme l'accident du travail, maladie professionnelle. Et du coup, moi je crois que la sanction a un rôle de prévention. Aujourd'hui, l'employeur ne paye pas. Donc,
c'est la sécu, c'est nous.
Voilà, c'est nous qui payons.
C'est nous qui payons.
Quand chez Lidl, on nous dit qu'on fabrique des chômeurs longue durée en série, moi, c'est par là que c'est parti, par un copain qui était directeur d'un Lidl et qui, avec sa chef de caisse et tout ça, tout le monde est tombé en maladie parce que c'était une stratégie managériale. Ça n'est pas une défaillance. On fait partir les anciens parce qu'on change de politique et on fait partir les anciens. Tout le monde se retrouve en dépression. Et là, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons alors qu'il y a des dégâts qui sont produits sur des humains. Eh bien, si on le replace en accident du travail ou en maladie professionnelle, c'est l'employeur qui paye à 97%.
Agnès Buzyn, pas seulement. Au Parlement, votre proposition a été rejetée en commission. Vous la défendrez néanmoins jeudi,
dans
l'hémicycle. Et le gouvernement vous dit, ou les parlementaires en marge vous disent, ben, de toute façon... on va s'en préoccuper. Vous leur faites confiance ?
Non, pas du tout.
On a un texte en gestation.
Pas du tout. D'abord, même tout en étant un jeune parlementaire, ça fait 8 mois que j'ai l'expérience que chaque fois qu'on sort un sujet de sa boîte, on nous répond « Non, non, il y a une mission qui travaille dessus. »
Toutes les propositions de loi de la France insoumise sont retoquées.
Mais pas seulement la France insoumise, de partout.
De
les Républicains ont fait une proposition sur l'agriculture, la réponse a été « Il y a une mission. » Il y a toujours une mission, il y a des états généraux, il y a toujours quelque chose. Donc, de toute façon, ils ont toujours un moyen de vous dire...
Et c'est pas vrai.
C'est peut-être vrai qu'il y a des missions. Maintenant, je note deux choses. Je note que pour le gouvernement, il y a des choses qui doivent se faire dans l'urgence. Alors, dans l'urgence, on supprime l'impôt sur la fortune sur les actionnaires. Dans l'urgence, on plafonne les indemnités aux prud'hommes.
C'est le calendrier du budget.
Non, mais dans l'urgence, on supprime les comités d'hygiène et de sécurité. Tout ça, il y a des urgences. Et pour le reste, quand ça peut être positif pour les gens, il y a des missions. Il y a des missions, et on verra bien ce que donne la mission. Donc ça, c'est déjà repoussé à plusieurs mois. Et ensuite, de la mission...
Vous n'êtes pas un peu caricatural. Excusez-moi, François.
Mais c'est
vous
si,
venez
il produit
de dire
tous les
que
jours.
Dès qu'il s'agit d'alléger le fardeau des riches, c'est l'urgence. Et dès qu'il s'agit de faire le bien des Français, alors il n'y a pas d'urgence.
Ben oui.
Les cotisations sociales, par exemple, chômage, maladie, baissent en cette fin de mois de janvier pour les salariés, 25 millions. Ça, c'est plutôt bénéfique.
Oui, d'accord. Mais enfin, c'est ça de moins qu'ils retrouveront aussi en avantage derrière. Quoi. Donc, non, pour l'essentiel, c'est quand même ça le raisonnement que chaque fois qu'on vient sortir un sujet. Alors, je sais qu'on va me dire que c'est un sujet très important. Ça commence toujours comme ça, vous savez. C'est un sujet très important. On en a tout à fait conscience.
Mais on le fera plus tard.
Mais ça peut très bien être poussé à plus tard. Et moi, je considère que quand aujourd'hui on a quelques centaines de milliers de cas, et ça, à peu près tous les experts qu'on a interrogés, y compris l'assurance maladie, nous disent que ce sont quelques centaines de milliers de cas par an. Ça veut dire quelques centaines de milliers de personnes qui sortent du travail, qui sortent de la vie active, parce que
ils ont le cerveau broyé. Alors, il faut espérer que ça soit pas définitivement, mais que ça soit temporairement. On a là un sujet sanitaire majeur et il faut le prendre à bras le corps.
Donc, vous encouragez le gouvernement à ne pas mettre ça sous le tapis et à pas se vous contenter de grandes déclarations. Un petit mot sur votre travail de parlementaire. Vous êtes depuis 7 mois député. Vous emmerdez en commission. C'est ce que vous avez dit au courrier Picard. Ça veut dire quoi? Vous voulez changer les règles? C'est trop figé, vous dites.
Bon, moi, je fais bien les commissions au bistrot, moi. Mais oui, parce que chacun. Moi, je pensais que si vous voulez, dans l'hémicycle, ok, il y a un côté un peu théâtral. On vient, on est applaudi par ses copains, on est hué par les autres. Ok, c'est le jeu.
Surtout quand on est des maillots de foot comme vous, d'ailleurs.
Ça peut participer. Mais bon, ok, c'est le jeu. Maintenant. En commission, je pensais qu'il y aurait un travail où plus les paroles pourraient se mélanger, il y aurait du dialogue, on serait d'accord, pas d'accord.
Un débat un peu animé.
Voilà, c'est pas du tout ça, c'est hyper figé. Les gens qui viennent, ils sont là comme représentants, donc ils sont hyper droits dans leurs bottes et tout ça, et puis les gens qui sont en face, ils prennent la parole au nom de leur groupe, et donc oui, je trouve ça un peu ennuyeux et je couvre bien un peu ça.
Dernier mot, Gérald Darmanin, la droite fait pression pour qu'il démissionne du gouvernement après la plainte déposée pour viol. Vous êtes derrière. Vous êtes sur la ligne de l'opposition.
Non, moi, il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Il faut que la justice fasse son travail. Je sais que c'est un mot commun, mais je pense que c'est la réalité des choses. Ce que je vois deux choses positives. Enfin, je vois une chose positive, c'est qu'il y a eu 10 à 12% d'augmentation des plaintes pour viol et agression sexuelle ces derniers mois. Et donc, ça veut dire qu'il y a une libération de la parole qui est trop positive. Maintenant, moi, je souhaite la démission de Darmanin, mais je la souhaite pour des raisons politiques. Je souhaite sa démission parce que dans mon département, il va y avoir 63 classes qui vont fermer. Et pour des raisons. Et ça, c'est l'œuvre de Darmanin.
Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Et cet entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.